5, 4, 3, 2, 1.
De Lilith Martinez, vous êtes sur la piste d'atterrissage.
Et oui, mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie ne capte pas les 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith! C'est 17h, c'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro.
Quand je suis arrivée en France, je n'arrivais pas vraiment à bien parler français. On me demandait « Qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu fais des études ?» Je répondais « Oui, je fais des études en master de droit humain. » Mais on ne me comprenait jamais. Alors, je répétais 3-4 fois, mais ça ne marchait toujours pas. Alors que je le disais en anglais, « human rights », et là, on me disait que j'utilisais un mauvais mot. On m'a dit qu'en français, on disait « droit de l'homme ». Là, j'ai pensé, « c'est pas normal de dire « homme » pour parler de tous les humains ». Mais on m'a dit que « l'homme » avec H majuscule, ça veut dire « l'humanité ». Depuis, j'ai continué à dire que j'ai fait un master de droit humain, mais si je dois le répéter plusieurs fois, j'abandonne et je dis droit de l'homme. Comme ça, tout le monde comprend et tout le monde est content, sauf moi. Au bout d'un certain temps, j'ai remarqué que quand je parlais de certains métiers au féminin, on me corrigeait aussi. Je disais « ma docteuse », on me répondait « on ne peut pas dire ma docteuse ». Ah bon ? On ne peut pas dire « docteur », vous êtes sûr? Je vais demander à ma professeuse. Pour la personne dont je parlais était une femme, donc je pouvais en parler au féminin, mais on me corrigeait toujours. Ça n'existait pas en français, ce n'est pas correct. Quand je me demandais pourquoi, on me disait « c'est comme ça ». Eh bien, merci pour la richesse de l'argumentation. Pourtant, nous on veut argumenter, c'est pas parce que c'est comme ça, on ne peut pas les changer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vous parler du genre dans la langue, de langue genrée et non genrée, et d'écriture inclusive.
Et pourquoi peut-il s'exprimer? Il faut se comprendre. Oui, mais est-ce que penser et parler, c'est pareil? Oui, mais comment être sûr d'avoir trouvé les mots justes? Parler, alors, c'est un peu risqué de mentir.
Vers la fin des années 80, un guide pour l'utilisation de langage inclusif qui s'appelle « Le mot rendre justice » a été produit par un comité contre le sexisme de la division de l'émission de l'Église unie du Canada. Donc ce guide écrit qu'il faut éviter les langages sexistes comme « Dieu écoute les hommes » qui sont complètement exclusifs. À la place, il faut dire « Dieu écoute les prières de nos cœurs » ce qui est inclusif. Il a aussi indiqué que le langage inclusif est différent du langage neutre. Par exemple, la phrase suivante est inclusive. Des femmes et des hommes travaillent au projet. Par ailleurs, la phrase suivante est neutre. Beaucoup de personnes travaillent au projet. Le langage ne devient pas inclusif du seul fait de remplacer les termes neutres. Parce que longtemps, il n'y a eu que des avocats et des pasteurs, par exemple, nous supposons alors que toute personne qui travaille de ses mains exerce la médecine, le droit ou la fonction de ministre. Ministre est un homme et moins que ce ne soit autrement spécifié. La langue française est exclusive avec des règles comme celle du masculin l'emporte et celle du général qui se prétend neutre, lorsque l'homme dessine l'ensemble de l'humanité. Cette caractéristique demande donc une attention particulière à quiconque cherche à adopter un langage inclusif. Avant de parler de l'écriture inclusive, je vais vous parler de certaines langues non genrées. Il y a quelques langues austronésiennes comme le malais, le tagalo qui ne sont pas genrées. Le tagalo, c'est un dialecte du rameau des langues philippines de la branche malayo-polynésienne, des langues austronésiennes. Deuxièmement, il y a quelques langues de la famille de langues finno-ugriques comme l'estonien, ta, et la troisième personne du singulier qui peut être il ou elle en même temps. Et le finnois, c'est une langue complètement sans genre. Il n'y a pas de pronom genré et ni de grammaire genrée. Hen peut être il ou elle. Le suédois, comme langue germanique, récemment, l'Institut de la langue suédoise a supprimé le hon, qui veut dire il, ou han, qui veut dire elle, par le hen, qui veut dire ou il, soit elle. Comme le dernier exemple de la langue genrée, mais pas complètement, qu'on peut dire qui n'est pas genrée, l'anglais est genré, mais moins que le français. En anglais, il n'existe pas d'article féminin ou masculin, ou ni de grammaire genrée. Par contre, les pronoms sont genrés comme he et she. Dans les milieux féministes, ça s'utilise he, she comme un pronom neutre, mais ce n'est pas très en commun. Maintenant, il y a la proposition d'utiliser they singulier. Normalement, on utilise they pour le pronom pluriel en anglais, mais plein de personnes utilisent they comme singulier pour éviter de dire il ou elle. Il faut se rappeler aussi qu'une époque, les personnes voulaient utiliser it pour tout le monde comme un prénom neutre, mais ça a été beaucoup critiqué avec des arguments qui parlaient de déshumanisation. Aujourd'hui, c'est possible de lire les textes en anglais comme they is a very nice person. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une faute. Le plus probable, c'est que ce texte a été écrit par une personne féministe.
Parlez-vous-français.com.
Salut, je suis Magané et je vous remercie pour votre vidéo qui parle jusqu'à l'écart le français pour toi.
Aujourd'hui, on va travailler sur le genre des noms.
Masculinum, femininum.
En français.
Masculin et féminin.
All French nouns are either masculine,
un petit, une petite,
or feminine.
Sarir, sarira.
Masculin und féminin.
Un grand, une grande. Kabir, kabira.
好，那如果我要把这个法国人变成一个法国女人，后边多了一个 française.
Masculin und féminin.
Après Après avoir parlé de certaines langues non genrées, je voulais vous parler plus particulièrement du turc comme une langue non genrée.
Qui est ta langue?
Oui, oui. Sans pronom genré, sans grammaire genrée, sans article féminin ou masculin. Rien. Le turc est une langue neutre, on peut dire qu'il n'existe pas de genre dans la langue turque. À la place de il ou elle, il n'y a que o qui veut dire il et elle ou elle en même temps. Quand on parle de o, le pronom pour la 13e personne du singulier, onlar pluriel, on ne peut pas déduire le genre de la personne sauf si on précise que c'est un homme ou une femme, ou trans, ou un intersexe. Ainsi, le pronom neutre « o » permet de ne pas donner d'importance au genre de la personne, contrairement au français. Dans cette langue, il y a vraiment une pensée binaire de genre qui oblige à utiliser soit « il », soit « elle », et inversement, utiliser « il » ou « elle » induit une pensée binaire. Cette pensée binaire dans la langue m'a mis dans des très difficiles positions à l'époque. Je me rappelle, il y a 2 ans, je pouvais parler vraiment très peu français et c'était pas clair d'apprendre à dire « il » et « elle » obligatoirement pour des personnes dont je parlais. Je me suis trompée des millions de fois. D'ailleurs, je me trompe encore de temps en temps. Je dis « elle » pour un homme et « il » pour une femme. Par exemple, quand je parlais avec un ami trans-homme, je me suis trompée en disant « elle ». Cette personne-là l'a pris très mal. Comme si je faisais exprès. Alors que juste, je n'arrivais pas à m'adapter à cette langage genré. Aussi, parfois, ce n'est pas clair pour des personnes de décider de dire « il » ou « elle » dans les milieux féministes. Je ne me sentais pas à l'aise de parler à ces personnes-là parce que j'avais tellement peur de faire une bêtise si jamais je me trompais et de disais « elle » à la place de « il ». En plus, parfois, des personnes ne veulent pas se mettre dans cette catégorie binaire non plus, comme des personnes intersexes ou des personnes queer. À ce moment-là, heureusement qu'on m'a dit que je pouvais dire « yel » pour singulier et « yel » avec « s » pour pluriel comme une troisième personne neutre. Là, j'étais très contente parce que « yel », c'est comme ma langue, sans genre et neutre. Dire Yel m'a sauvé un peu, mais il y a encore des personnes qui ne me comprennent pas quand je dis Yel.
Oui, et on peut aussi utiliser All.
All aussi.
Oui, il y a les deux.
Ouais. Ok.
C'est une autre manière, mais ce n'est pas très utilisé.
Oui. Si on continue à parler de turc, un autre point dans la langue turque, il n'existe pas d'article genré comme le, la. En fait, il n'existe pas d'article du tout. Je me demande toujours comment il a été décidé de dire la table, ou le soleil, ou le dieu, ou la beauté. Peut-être qu'on pourrait faire une recherche là-dessus pour voir s'il y a des liens entre les symboles masculins ou patriarcal avec le genre des mots. Mais pas de panique, je ne vais pas tenter de faire ça. Pour pouvoir faire une recherche comme ça, je dois très bien connaître la langue française. Mais là, je parle en français brinque-ballant, donc ce n'est pas mon rôle de faire ça. Une autre chose qui me dérange en français, c'est de dire par exemple, je vais lui dire, même si la personne est une femme. Dans la langue turque, comme il y a juste « o » comme pronom personnel sujet, donc ça devient « on a » comme pronom personnel complément. Et c'est toujours neutre. Mais en français, on utilise « lui » comme pronom personnel complément pour tout, pour les choses et pour les personnes.
Mais alors, la langue turque, elle n'est pas sexiste?
On ne peut pas dire que complètement la langue turque n'est pas sexiste, parce qu'en turc, il y a des mots, par exemple, à l'époque, on disait que « bilim adamı », ça veut dire « l'homme de science ». Et là, ça a été corrigé par plusieurs féministes disant « l'humain de science ». Là, maintenant, on utilise beaucoup plus « bilim insanı ». Mais après, il y a certains mots comme « anavatan », ça veut dire « ton pays d'origine ». Et ça vient de la mer. On dit comme « le pays de ta mère ». Et aussi, il y a par exemple des insultes. Pour dire, en fait, en turc, excusez-moi, mais je vais te niquer. Et le mot, en turc, ça vient de le pénis en argot, sikmek. Et là, par exemple, par des femmes, on ne peut pas vraiment utiliser cette insulte parce que c'est forcément sexiste. Là, on n'est pas vraiment une autre expression pour la placer.
Vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres, les langues et le genre. Et alors là, on continue sur logiciel, la langue turque, un truc comme ça.
Après tout ça, je voulais parler d'un scandale sur les logiciels de traduction.
Ah, un scandale.
Ouais, plutôt. Google Translate, comme les phrases turques sont traduites dans les langues genrées comme le français. Quand on traduit des phrases turques en anglais ou en français, elles deviennent genrées d'une façon très sexiste. Par exemple, ce matin, j'ai tout essayé. Oyemek yapıyor, ça veut dire, qui veut dire il ou elle cuisine. Traduisent en français, elle cuisine.
Ça, c'est dans Google Translation. Ouais. Quoi. Tu tapes ta phrase et elle est traduite directement dans une autre langue.
Voilà. Pour être sûr, j'ai essayé plusieurs phrases pour voir si ça marche toujours ou pas. Après, j'ai tapé « Obir mühendis », il ou elle est ingénieur. Et c'est traduit « il est ingénieur ». Après, je continue.
Ça fait scandale.
« O Evli », ça se traduit par « elle est mariée ».« O Bekar », ça se traduit « il est célibataire ». Je continue. « O Mutlu », ça se traduit « il est heureux ». Omutsus, ça se traduit par elle est malheureuse. Otembel, ça se traduit par elle est paresseuse. Otchalushkan, ça se traduit par il est travailleur. Obashkan, ça se traduit par il est le président. Je suis très choquée par la manière dont se traduit le sexisme dans une langue non genrée vers une langue genrée. C'est pareil pour les traductions de finlandais ou en français aussi. Par exemple, juste un petit exemple. Hän on kokki, qui ça veut dire il ou elle est chef, ça se traduit il est chef. Et dans quelques exemples, comme j'ai dit tout à l'heure en turc, ça se traduit pareil.
Dommage pour Merkel, elle ne peut plus être chef d'Allemagne, quoi.
Non, là, pour elle. C'est quoi, c'est le finlandais,
finnois. Ouais.
Toi, tu parles finlandais?
Non,
suédois, c'est ça.
Ouais. Ouais. On peut dire que même l'algorithme de la technologie est sexiste et super genré. Mais est-ce qu'on peut blâmer les technologies, les logiciels et les algorithmes d'être sexistes? Selon leurs recherches, les logiciels de traduction fonctionnent avec les statistiques des résultats des traductions et le programme traduit les phrases par rapport au pourcentage de clics. Cependant, Plein de personnes accusent les industries de la technologie d'être racistes, sexistes et classistes, car elles sont dirigées par des hommes blancs. On peut être d'accord avec tous ces arguments quand on voit par exemple Google Traduction de turc en français, mais les phrases liées à la faiblesse, des tristesses ou le mariage sont référées aux femmes, alors que les métiers comme docteur, ingénieur, les notions comme le joie, le célibat sont référées aux hommes. De plus, on peut lire l'article de The Guardian, The Rise of the Racist Robots, How AI, Intelligence Artificielle, is Learning All Our Worst Impulses. Dans cet article, c'est très bien expliqué comment l'intelligence artificielle prend des décisions pour nous-mêmes. Comment on laisse calculer les machines et décider à notre place combien d'argent on doit payer pour une assurance ou un prêt étudiant, etc. C'est triste, mais il faut reconnaître que les algorithmes, les technologies dites sexistes ou racistes, ce sont les humains qui les ont créés. Comme ce sont les humains qui les ont créés, c'est aux humains de les changer aussi.
Extrait d'une conférence d'Eliane Viennot parle des féministes qui ont écrit à l'Assemblée nationale en pleine révolution, figurez-vous quoi, au printemps 1892.
Ce sont des femmes absolument formidables qui envoient tout un projet de loi à l'Assemblée pour abolir le privilège masculin. Alors il y a 8 ou 10 articles et le troisième article de leur projet de décret c'est « Le genre masculin ne sera plus regardé même dans la grammaire comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. » Hein ? Bon, on signe ? Très amusant le « tous les sexes ». C'est une manière de s'exprimer tout à fait courante à l'époque. On dit « gens de tous sexes et de tous âges ». On aimerait retourner là-bas pour leur demander ce qu'ils veulent dire. C'est en écho avec des questions très actuelles.
Il était une fois l'histoire de la langue française. Ou plutôt des langues françaises. Celle-ci se baladait tranquillou, le nez au vent, depuis l'époque gallo-romaine, insouciante, multiple et libre. Elles voyageaient, mélangeaient leur salive avec tout ce qu'elles croisaient sur leur chemin, et surtout, elles n'avaient qu'une idée en tête, qu'on les comprenne, qu'on les utilise pour communiquer, négocier, séduire, commercer, chanter, exprimer leur point de vue et parfois même comploter en secret. Elles étaient orales et populaires, elles se la pétaient moins que le latin. Elles furent victimes de leur succès. Au XVIe siècle, on en fit un joli paquet que François Ier imposa comme langue du droit et de l'administration, en remplacement du latin « cadeau ». Et puis au XVIIe siècle, on en rajoute une couche en inventant la fameuse règle du « c'est le masculin qui l'emporte ». La linguiste Laure Gardel explique « À cette époque, on pense que l'homme est biologiquement supérieur, qu'il est actif alors que la femme est passive. On cite pour preuve le fait que l'être suprême Dieu est de sexe masculin ». Dieu porte des slips, certes, mais c'est un type qui porte une robe qui offrira à la langue française son plus bel écrin, sa prison dorée. En 1635, le cardinal Richelieu fonde l'Académie française. Quelle riche idée ! L'Académie, ce sont des gens de lettres au service de l'État et de la monarchie. L'article 24 de ses statuts énonce « La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et la science. » On peut souligner l'utilisation du mot « pur » qui fait toujours un peu flipper dans un discours politique. En tout cas, ça fait flipper les révolutionnaires qui suppriment l'Académie en 1795. Mais Napoléon Bonaparte l'a rétabli quelques années plus tard. Merci Napoléon. Non, vraiment, fallait pas. L'institution siège depuis 1805 sous la fameuse coupole du Collège des Quatre Nations et rassemble des personnalités de la vie culturelle, écrivains, écrivaines, historiennes, historiens, philosophes, mais aussi militaires de haut rang, hommes d'État et dignitaires religieux. Catholiques, doit-on le préciser ? Un exemple de militaire de haut rang, le maréchal Pétain, qui avait son petit fauteuil à l'Académie, avec 3 autres copains collaborationnistes. Bon, ouf, ils sont tous exclus après la guerre. À quoi ressemblent les académiciens ? Eh bien, tout ce beau monde porte un habit vert à 35 000 boules et une épée. Clairement, ce ne sont pas les Robin des Bois de la langue française, mais ils ont quand même tendance à se prendre pour des justiciers. D'ailleurs, ils se sont baptisés les immortels. Bim, ça claque. Surtout quand on sait que la moyenne d'âge à l'académie est de 78 ans. Ils ne sont pas tout jeunes, hein. Ils sont même plutôt vieux, plutôt blancs et plutôt de sexe masculin. Sur 34 immortels, on compte 4 femmes aujourd'hui. On peut donc affirmer que cette institution, dont le rôle est de constater, recueillir et normaliser les usages du français, n'est absolument pas représentative de la population qui parle cette langue. Et ça, bah, c'est quand même un peu dommage. Ah oui, et aussi, les immortels ne sont ni grammariens, ni linguistes, ni philologues et pas toujours écrivains. Donc quand Hélène Carrère-Dancausse, l'une des 4 académiciennes, déclare que « l'écriture inclusive serait un péril mortel pour notre langue », franchement, on a envie de lui dire « est-ce que tu t'es bien regardée avec ta cape et ton épée ?»
Alors, on l'a bien compris, les Français, ils sont un peu figés et un peu coincés par rapport à leur langue.
Mais les Français, hein.
Que les Français. Que oui, les j'ai fait exprès d'écrire oui. Français. Oui.
J'ai réfléchi. Ah, j'ai bien tilté là. Hein.
Merci d'avoir suivi. On va donc maintenant voir un peu comment ça se passe quand cette langue est donc confrontée à d'autres. Alors, petit retour en arrière. Le 10 décembre 1948, toutes les nations du monde se sont réunies à Paris pour la 3e Assemblée Générale de l'ONU. Pendant 2 ans, les États ont réfléchi ensemble à comment se doter d'un cadre moral et législatif pour empêcher le retour d'actes de barbarie, de guerre et pour défendre les droits de tous et de toutes. C'est donc à ce moment-là que la Déclaration universelle des droits humains ou de l'homme va naître. René Cassin, un homme politique français qui participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, propose de garder la formulation « droits de l'homme » en référence à la très française et très noble Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, laquelle avait d'ailleurs déjà été décriée à l'époque par de nombreuses femmes, dont Larme de Gouges, qui avait expliqué comment ce titre excluait une large part de la population française. Presque 2 siècles plus tard, donc, c'est au tour d'Eleanor Roosevelt, qui est présidente de la Commission des droits humains de l'ONU, donc, qui rédige la Déclaration universelle. C'est à elle de se battre pour que cette formulation à la française « droit de l'homme » soit traduite en anglais dans le texte de la Déclaration en « human rights ». Donc la Déclaration, elle est en effet rédigée dans la langue internationale utilisée à l'ONU, qui est l'anglais. Alors je crois que déjà les Français n'aiment pas trop ça non plus.
Les Français.
Et donc la Déclaration a ensuite été traduite dans toutes les langues. Tous les pays ont donc traduit littéralement « human rights », donc « droits humains », tous sauf les Français, on l'a dit tout à l'heure. Le refus chauvin de perdre la position en flèche qu'avait eu la France des siècles auparavant a eu raison de cette traduction. Faut dire que les grammairiens masculinistes du XVIIe siècle avaient donc 2 beaux héritiers parmi les traducteurs français du XXe siècle. Mais aujourd'hui, peut-être que mettre à jour la formulation « droit de l'homme » par celle plus inclusive de « droit humain », ça serait mettre un terme à une injustifiable et absurde marginalité française. Parler de « droit humain » permettrait de remplacer une formulation qui entretient le sexisme que la France prétend combattre pour enfin faire advenir des manières plus inclusives d'écrire et de parler. Parce que sinon, dès son entrée dans la langue, l'être humain identifiant après comme étant de genre masculin va apprendre qu'il l'emporte sur le féminin. Bah oui, voyons. Cette formule « droit de l'homme » qui est donc toujours utilisée, alors avec un grand H, certains diront, mais pas de bol, par exemple à l'oral, bah, ça ne s'entend pas, souligne les implications sexistes que ça produit et le franco-centrisme que révèle la non-remise en question de cette formule. Chacun et chacune de nous, usagers et usagères de la langue, détenons une responsabilité politique finalement. Dès lors que j'écris, que je parle, je fais le choix d'exclure une partie de la population du champ symbolique en optant pour le masculin dit « générique » ou alors au contraire de les y inclure en optant pour des formes mixtes. De la même manière donc quand je choisis de traduire « humans » par « homme ». Et oui, les mots sont importants.
C'est pas l'Académie française qui fixe les règles de l'Assemblée nationale, c'est le bureau. Or, la féminisation des fonctions est inscrite dans l'instruction générale du bureau depuis 1998 et a été rappelée par le bureau lors de sa réunion du 11 octobre 2000. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté, mais mais d'un usage parlementaire codifié qui constitue l'expression du respect le plus élémentaire dû à nos collègues féminines. Après un premier appel à l'ordre, M. Aubert a refusé d'obtempérer et a continué à s'adresser à Madame le Président.
Le concept de langue inclusive m'est revenu à la gueule plutôt de manière désagréable alors que je la pratiquais depuis 10 ans. C'est lors d'une formation que je faisais cet automne lors d'un cours qui s'intitulait « La diversité ». L'intervenant essayait de nous faire parler sur ce thème. À un moment, il écrit au tableau « Nos amis » avec le point médian, donc ça faisait « nosamis.e.s », présente ça comme une nouvelle façon d'écrire qui se nomme la langue inclusive, et que le gouvernement vient juste de l'obliger, même pour les administrations. Pendant qu'il parle, mon cœur bat super fort. C'est surprenant d'entendre quelqu'un parler d'une pratique militante que j'ai depuis des années, là comme ça en cours, un lundi matin, et dire que ça y est, bam, c'est obligatoire pour tous. C'est un peu mes différents mondes qui se rejoignent, alors que je ne m'y attendais pas. Je suis carrément au taquet de la suite. Il continue. Mais c'est extrême, blablabla, douche froide. Je transpire à grosses gouttes. Comment ça, c'est extrême? On ne parle que de langue, d'écriture, de vouloir par ce biais-là changer les choses, promouvoir l'égalité homme-femme, arrêter d'entendre dire que le masculin remporte sur le féminin, pouvoir nommer au minimum deux réalités, homme et femme, et pourquoi pas d'autres, intersexes, trans. Bon, j'essaye de prendre la parole, de dire que moi j'utilise l'écriture inclusive, que oui je m'adapte si des personnes en face de moi sont en difficulté avec l'écriture, oui je vais faire gaffe, mais comme je ferai gaffe pour d'autres sujets. Ouh là là, je tremble et quand je parle, je fais pas ma maline. Mais l'intervenant non plus. Il n'avait pas imaginé qu'en abordant ce sujet, il tomberait sur des adultes qui la pratiquaient. Par contre, pour moi, ça sort des débats dans les réseaux militants et associatifs auxquels j'ai été confrontée. Ça prend une dimension globale. La société entière parle de la langue inclusive. Et c'est pour ça que lui, il nous en parle, cet intervenant, parce qu'il en a entendu parler dans les médias. Il va là où le vent y souffle.
Que des préoccupations, je crois, qui concernent beaucoup de femmes, maintenant arrivent à être à la mode. Alors je crois qu'il faut profiter de ce moment où des gens que le sujet n'intéresse absolument pas et qui sont même
farouchement
désintéressés, pas intéressés par le problème. Ils ont que maintenant, parce que c'est à la mode, ils sont prêts à vaguement en entendre parler.
Bon, moi en fait aussi, j'en avais pas entendu parler de cette affaire, que le gouvernement allait autoriser cette écriture. Alors quand je rentre chez moi, je cherche sur internet pour démêler les événements, parce que j'y crois pas vraiment. Donc là, je tombe sur la première histoire. En mars dernier, les éditions Hatier ont sauté le pas. Elles ont publié un manuel scolaire rédigé avec une écriture inclusive qui vise à respecter l'égalité des sexes. Dans « Questionner le monde », un manuel scolaire destiné aux élèves de CE2, les métiers sont écrits à la fois au masculin et au féminin en utilisant des points pour entrecouper. Personne n'en parle, jusqu'à la rentrée 2017, tadam, le Figaro qui dénonce tout ça. La mayonnaise prend, mais d'une sale façon. Des groupes Facebook se montent pour s'insurger contre les professeurs, l'Académie française s'y oppose vertement, et c'est leur tenue qui leur détend dessus. Ils sont pas du genre à s'opposer aux problèmes de genre. Puis je vais parler de haut masculin, même si c'est une meuf à la tête, je vous respecte les immortels. Pourtant, ce type d'écriture est encouragé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui soulignait en 2015 que la langue reflète la société et sa façon de penser le monde. Du côté du ministère de l'Éducation, on assure qu'il n'y a pas de travail en cours sur le sujet et que c'est la liberté des éditeurs qui prévaut. Attends, l'Éducation nationale va pas se mouiller sur les sujets de l'égalité. Non, 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 on a entendu parler de l'abécédaire du genre, et bah vite, ils l'ont mis aux oubliettes. Puis, du côté du ministère du Travail, avec Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité femme-homme, le 10 octobre, elle lance le guide « Égalité femme-homme, mon entreprise s'engage », destiné aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, l'objectif est de donner des recommandations sur les stéréotypes sexistes. Des recommandations. On se croirait à Lilith, elles ont dû beaucoup nous écouter, celles-là. C'est ce communiqué qui a été déformé par l'intervenant de ma formation, qui en vient à dire que c'est devenu obligatoire de l'utiliser même dans les administrations. Sauf qu'entre les termes d'obligation et de recommandation, il y a un écart. Donc ces deux meufs du gouvernement recommandent de proposer une version féminine pour chaque terme masculin, en doublant les termes ouvrière et ouvrier, charpentier et charpentière, n'est-ce pas Grande Zéro ? Soit en utilisant le point médian, soit user de mots neutres comme cadre, fonctionnaire, juriste. Alors là, ça c'est trop bien. Accorder en genre les mots décrivant une fonction, un grade, un titre ou un métier. Adjointe, donc avec les points médians, consultante et consultant, rédactrice et rédacteur. Ne jamais mettre de majuscules de prestige à femme ou homme, car ni l'un ni l'autre ne peuvent englober la totalité de l'humanité. Et une entreprise qui se respecte évoquera plutôt les droits humains que les droits de l'homme. Ce guide aussi invite à proscrire, à interdire les formulations sexistes ou à ne plus les utiliser, du type chef de famille, mademoiselle, à veiller à ne pas tomber dans les clichés ou à équilibrer la représentation des femmes et des hommes dans l'ensemble de leurs actions de communication. Eh ben c'est simple, non ? Pourquoi vous nous en faites un foin ? C'est comme de ne pas faire de représentation antisémite quand on veut décrédibiliser son adversaire lors d'élections présidentielles. Mais quand on touche enfin à une toute petite avancée, des tonnes de rétrogrades qui, en le pensant comme tel ou non, nous tombent dessus. On a espéré que la polémique retombe plus vite que celle du mariage pour tous et qu'elle soit heureuse comme un prince qui puisse vivre longtemps avec plein d'enfants de son mec.
Pour revenir à Édouard Philippe, il s'est dit qu'il fallait siffler la fin de la récré, là, que cette histoire d'écriture inclusive avait assez duré parce qu'on confond tout, parce qu'avec ce concept, on en vient à triturer notre langue française au nom de la lutte contre les stéréotypes. Enfin, le français est déjà une langue complexe, inutile de la complexifier davantage, et puis de faire peser sur les épaules de nos enfants des considérations qui relèvent du politiquement correct ou même de la police de la pensée. Donc, il y a 15 jours, le directeur de cabinet du Premier ministre lui a fait remonter des informations. Alors, un bloc par-ci, un appel à soutenir par-là. Et puis alors la goutte qui a fait déborder le vase, ce sont des annonces d'emploi dans l'administration rédigées avec ce qu'on appelle le point médian. Oui. C'est formidable le point médian. Alors les candidats à S.ES sont invités et S.ES et ainsi de suite. Oui, à la fin, on ne sait plus de quel emploi il s'agit. Et là, Édouard Philippe a dit stop.
On a donc compris que les Français et les journalistes ont appelé à Édouard Philippe à rétablir l'ordre. Qui mettent un holà à tout ça. Donc on a entendu, oui, il a dit non, 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 le gouvernement n'utilisera pas l'écriture inclusive. Marlène Schiappa, alors qu'elle avait fait cette recommandation avec la ministre du Travail, ben en fait, elle trouve que l'écriture inclusive, c'est vrai, c'est un peu trop extrême. Elle retourne sa veste. Et puis l'Académie française, avec à sa tête Hélène Carrère dans Cause, refuse la langue inclusive, hein, comme en 99, mais j'ai pas le temps d'en parler pendant l'émission parce que c'était vraiment très speed. Ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, et ben tout, ben l'Académie française, notamment si elle refuse de changer la langue, on peut pas la changer. Dans ce contexte nauséeux, un mouvement de protestation progressiste et porteur d'une volonté de changement réel sur les langues a émergé. La diffusion en novembre dernier d'un manifeste de 347 enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur et du français langue étrangère a eu un large écho dans les médias et a montré que des personnes se battent pour des idées auxquelles elles croient. Yel déclare avoir cessé ou s'apprête à cesser d'enseigner la règle de grammaire résumée par la formule « le masculin l'emporte sur le féminin ». Bravo ! Bravo, félicitations. Car premièrement, cette règle est récente dans l'histoire. Elle a été mise au point au XVIIe siècle et a dû attendre la généralisation de l'école primaire obligatoire pour être appliquée. Secondement, l'objectif était politique, le genre masculin est le plus noble. Par cette idée, l'école de la République maintenait un ordre refusant aux femmes les droits politiques jusqu'en 1944, un ordre de pensée qui, par exemple, s'exprime sur le refus aux femmes des droits politiques jusqu'en 1944, aussi le refus pendant longtemps d'ouvrir les grandes écoles ou d'abroger les dernières dispositions du code Napoléon. Troisièmement, la répétition de cette formule aux enfants entraîne des représentations mentales qui conduisent à accepter la domination d'un sexe sur l'autre, de même que toutes les formes de minorisation sociale et politique des femmes. En conséquence, si elle déclare enseigner la règle de proximité ou l'accord de majorité ou l'accord au choix, appelle la ministre de l'Éducation nationale à donner des instructions précises allant dans ce sens et à ne pas sanctionner celles qu'il ferait, appelle les professionnels de la presse et de l'édition, les correcteurs et correctrices, les écrivaines et les écrivains, et les citoyennes et les citoyens francophones à en faire autant. Eh bien, merci.
On y va ?
Oui. Zone, you feeling me? When I walk into the party, all these bitches at a naughty house, naked they be hiding, niggas pulling in the shoddy, and busting my Bugatti. When I get into the body, where was the love body? Am I giving the finale? But I won't, 'cause the G&D's in my phone, hotter than their D's. Two bitches in the thighs, sticky phone her bees. Pop smoking pipe, but the real G's. Every rapper got a hoe, and the chilling in the dough, and the public is a homie to be feeding on a show. Paying our tits for bliss, sending us to school to see shit like this.
D'entendre Bring Back Hip Hop de Tracy qui était à Radio Canu l'année dernière. Yes, because Lilith, nous sommes multilingues, of course, et nous parlons de la langue aujourd'hui. Alors, les opposants de l'écriture inclusive utilisent souvent le terme de féminisation. En fait, c'est une erreur. Il faudrait dire j'arrive jamais à le dire. Non, à chaque fois, démasculinisation. Et Eliane Viennot, elle utilise aussi encore une autre expression que je trouve jolie. Elle parle des retrouvailles de la langue française avec l'usage du féminin. Eliane Viennot, on l'a entendu tout à l'heure, dans un extrait, c'est une professeuse, et elle tient à ce qu'on dise ça, hein, professeuse émérite de l'université de Saint-Étienne. Elle a écrit un bouquin qui est un peu devenu la référence sur le sujet et qui s'intitule « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Et elle fait aussi beaucoup de conférences qui sont super intéressantes. Elle est assez drôle d'ailleurs quand elle parle. Et là, on va écouter un extrait dans lequel elle donne des clés pour utiliser la langue française d'une manière moins sexiste. Cet extrait a déjà été diffusé dans deux émissions sur le sujet, réalisées par Fréquence Furie-Furieuse. Et ces deux émissions que nous vous invitons à écouter sur la plateforme féministe Radio Rageuse pour compléter toutes ces informations qu'on vous donne aujourd'hui.
Okay.
Alors, c'est une langue qui est outillée pour respecter leur légalité. Tous les mots qui ont été décrétés des néologismes ou qui sont déclarés laids ou rebelles à la féminisation, comme dit la dernière bulle de l'Académie, ont été employés pendant des siècles, visiblement pour des gens qui ne les trouvaient pas nouveaux, ni laids, ni rebelles. Madame Merkel, que tout le monde reconnaît, jusqu'au moment où elle a été élue chancelière, il était absolument impossible de prononcer ce mot. Il n'avait jamais existé, il était imprononçable, il était laid. Alors le Figaro a mis 15 jours avant de céder. Autre réflexion sur ce suffixe S dont on entend dire qu'il est ridicule, qu'il est mort, qu'il est inutile, etc. Alors bon, une tigresse, les princesses, les suissesses, bon voilà, allez expliquer aux petites filles que princesse c'est vilain et qu'il faut dire la prince, hein, ou le prince. Tu veux pas un habit de prince aujourd'hui? Bon, bah, c'est autre chose, on lui propose autre chose. Hein. Donc non, c'est pas du tout un suffixe ridicule, il a été ridiculisé, on entend encore dire que c'est ridicule, mais c'est faux, aucune raison. Il est utile pour désigner les personnes identifiées comme des femmes ou des femelles. D'ailleurs, les Québécois ont remobilisé Mérès, par exemple. Personne n'a mené la guerre pour Mérès, mais bon, bah, le maire, la mairesse, c'est plus clair. Alors, le suffixe « heure », je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'auteur avec un « e », mais ce n'est pas parce que ce serait affreux, horrible, inconstitutionnel, etc. C'est simplement une désinence qui est rare en français pour désigner des féminins. On voit ici un texte d'un juriste qui date de la fin du XVIe siècle, Dame Esther Dubois, propriétaire, possesseur. On trouve aussi pas mal de seigneurs avec un « e » dans les vieilles chartes du Moyen-Âge. Donc ce n'est pas un scandale, si vous voulez. Et on en a besoin, par exemple, pour ce mot-là, « ingénieur ». Parce que ingénieuse n'est pas le féminin d'ingénieur, mais d'ingénieux. On peut utiliser les noms de fonctions plutôt que les noms de personnes. Par exemple, un statut qui a moins de 10 ans, j'aurais voulu me mettre dans le statut de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise. Ben non, ils n'ont pas trouvé ce mot. Ils ont appelé ça auto-entrepreneur. Il y a moitié de femmes. Mais c'est au masculin, il faut être au masculin. Autre chose qu'on peut faire dans l'ordre de l'ancien, c'est le couplage de l'ordre alphabétique et de l'accord de proximité qui permet de parler des deux sexes à égalité. Les candidates et les candidats se sont présentés. Si vous mettez l'ordre alphabétique, candidate passe avant candidat. Et si on continue avec l'accord de proximité, on m'est présenté parce que c'est candidat qui est tombé en dernier. Et dans l'autre sens, c'est le contraire. Les auditeurs et les auditrices, c'est auditeur qui est passé devant, c'est auditrice qui est passée derrière. On ne se demande pas si c'est les messieurs qui ont le droit de passer devant, si par galanterie, il faut faire passer les dames devant, etc. On suit l'ordre alphabétique, il est arbitraire, il n'a aucun enjeu idéologique. Et ensuite, eh ben, on continue avec l'accord de proximité. Donc vous voyez, ça c'est une petite gymnastique à réapprendre et on peut très bien s'en sortir. Et la langue, l'histoire de la langue, comme le fonctionnement de la langue, nous propose ces solutions. Il n'y a rien besoin d'inventer. Alors quelques innovations quand même. Parfois on est quand même gêné et on a bien besoin de signes pour créer des mots communs. La ville de Genève a proposé, qui ont 25 ans d'avance sur nous, les lauréats trait d'union E, trait d'union S. Bon, c'est une manière de dire que ça concerne les hommes comme les femmes. Il y a des manières un petit peu plus légères de dire ça, par exemple avec ce qu'on appelle le point milieu. Et un seul, ça suffit parce que tout le monde comprend. On aurait peut-être besoin de créer quelques pronoms. La langue française a perdu des pronoms dans son histoire, notamment un pronom féminin, le pronom « lit », qui correspondait à lui. Elle l'a perdu. On peut en créer un ou deux, ça, on ne va pas en mourir. Et ça pourrait peut-être être utile. Par exemple, une des propositions qui ont vu le jour depuis une quinzaine d'années, c'est « yel », qui voudrait dire « il et elle », puisque notre problème principal, c'est le pour désigner des groupes mixtes au pluriel. Les mêmes pronoms pourraient peut-être exister au singulier pour les personnes qui sont, elles, rebelles, à la différence des sexes. Ce n'est pas la nature qui nous sépare en deux groupes étanches. Hein. Donc, il y a des personnes qui ne sont ni hommes ni femmes et pourtant qui doivent se nommer et être nommées. Il y a d'autres propositions qui sont faites aujourd'hui et je pense que dans les années qui viennent, ça va se discuter. Bien sûr, il faudrait débrancher l'Académie française.
Donc voilà, c'était bien sûr Éliane Viano. Et quand elle parle de personnes qui ne se reconnaissent ni dans le genre féminin et masculin, on avait envie juste de nommer donc ces personnes. Ça peut être des personnes trans qui ne veulent plus être du genre féminin ou masculin et qui veulent juste être X, indépendamment de ces deux, de cette binarité. Ou des trans pareil qui ont voulu changer de genre et qui du coup on dit M to F ou masculin vers féminin ou F to M, féminin vers masculin. Soit pour des personnes intersexes, soit pour les gwyn, les butch ou les femmes qui ne veulent plus être des femmes, mais qui du coup rejouent de nouvelles catégories. Pareil pour les PD qui jouent le genre. Et maintenant, on s'est intéressé à des initiatives militantes, des pratiques au quotidien, avant que quelconque membre du gouvernement donne le la pour qu'on inclue, pour que la population française inclue tous les genres, tous les sexes, tous les âges dans la langue française. Et oui, des personnes le faisaient avant au quotidien. Rencontre dans un bistrot avec une bénévole d'une maison d'édition de Lyon, Tain Party.
Ma maison d'édition, c'est les éditions Tain Party, une maison d'édition qui a commencé en 1998 et dont moi je fais partie depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Ce qui nous intéresse dans cette maison d'édition, c'est de faire des livres à pas cher, parce que beaucoup de livres qui sont un peu alternaux ou des choses comme ça, ils sont tout de suite à 15 euros, 20 euros, mais on essaye de garder les prix super bas. Et aussi, on essaye de faire des livres sur des sujets qui ne sont pas beaucoup traités dans les autres maisons d'édition. Comme on a ce point de vue et cet angle d'attaque qui est militant, on choisit aussi beaucoup de nos règles. Là où d'autres maisons d'édition, elles vont être... je parle des grandes maisons d'édition un peu classiques. De dire, il y a beaucoup de règles d'édition et tout le monde va respecter les mêmes règles et les règles. Donc, nous, on va essayer d'être dans une réflexion aussi autour de la langue et de comment on la simplifie et comment aussi on porte des choix sur ce qu'on fait et comment on pourrait faire évoluer la langue. C'est que ce qu'on écrit, ça puisse être lu à l'oral facilement. Par exemple, là où il y a des gens qui vont écrire chômeur.euse, nous on va écrire chômeur et chômeuse pour que ça fasse quelque chose qui est facile à la lecture. Parce que c'est ça qui est beaucoup reproché aussi à plein de moments, c'est que c'est pas facile à la lecture, que ça complique. Et je veux bien croire que des gens qui sont pas du tout habitués à lire comme ça, moi je suis habituée, ça me choque pas, mais il y a des gens qui sont pas du tout habitués et du coup... Je trouve que nous, on a fait cet effort-là d'essayer que ce soit ce que tu lis dans ta tête et ce que tu lis à l'oral, ça passe tout seul et t'es pas obligé de modifier. Ça fait des vrais mots que tu comprends tout de suite, même pour des gens qui auraient pas trop l'habitude, quoi. Alors que, je sais pas moi, si on va mettre abonné.es, parce que abonné au féminin ou au masculin, ça change pas la prononciation. Sur notre dernier bouquin, là, comme il y avait pas mal de... Comme il y a eu toutes ces discussions là autour de l'écriture inclusive ces derniers temps, on a redécouvert un peu des trucs qui sont ressortis de la règle de proximité. Et du coup, on s'est appuyé sur cette règle-là et on a essayé de la mettre en œuvre aussi dans notre bouquin. Ça simplifie pas mal les choses. Ça peut être aussi à plein de moments d'utiliser des mots qui bottent en touche un peu ce truc de féminin ou masculin. Par exemple, c'est comme de dire la personne au lieu de dire je sais pas quoi, la personne qui a appris ça, plutôt que de devoir dire un masculin qui serait universel, ou de devoir dire il ou elle.
Vous avez aussi une réflexion sur le fait que c'est soit que la réflexion sur la langue, elle est que féminin ou masculin, et du coup aussi de se dire en fait il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les deux genres, et du coup aussi d'avoir une écriture qui puisse un peu plus floue aussi par rapport à ça.
Ouais, ça joue aussi. Après, je pense que c'est encore plus difficile à faire parce que le neutre, il n'existe pas vraiment. Mais je pense que déjà en faisant ça, d'alterner féminin, masculin, ou de mettre une personne ou parler de les gens qui ont fait ça ou je sais pas quoi, ça permet aussi ce truc là de pas mettre que du masculin, du féminin. Enfin, après c'est sûr que en français, si tu veux écrire avec en prenant en compte le maximum de personnes, c'est toujours hyper compliqué parce qu'on n'a pas cette forme neutre et il faudrait la trouver et l'inventer, mais pour le moment nous on n'en a pas une qui nous convient et qui fait que ce serait facile de... Enfin, il y en a qui existent, il y a des gens qui réfléchissent à ça et qui les mettent en place. Par exemple, la formule où tu mets le point ou le tiret, ça permet aussi d'imaginer qu'il y a autre chose à la place du point ou du tiret, ou de faire des pronoms comme ul ou yul, ou des autres pronoms que il ou elle. Nous, on a choisi de pas faire ça aussi parce que on se dit qu'il faut y aller petit à petit et qu'on y va petit à petit avec déjà des étapes par étape et puis d'essayer de le faire plus dans le choix des mots et des tournures de phrases, quoi. On essaye de faire aussi des choses comme ça, de réfléchir un peu sur comment on alterne le féminin, le masculin, même si on a un doute, par exemple, on ne sait pas s'il y avait des femmes ou pas, ben on le met quand même dans le doute, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont invisibilisées comme ça au final, parce que, oh ben non, mais à cette époque, des ouvriers, il devait y avoir que des hommes, ou des choses comme ça, que nous on se dit, ben en fait non, sûrement il y a des femmes, mais juste on ne sait pas, parce qu'elles n'ont pas été retenues par l'histoire. Du coup, on va les rajouter aussi.
Vous vous en doutez, on a beaucoup parlé pour préparer cette émission de la salive, de la salive, de la salive. Car oui, Lilith Martine et les autres kiffent grave les langues. C'est un sujet qui nous semble primordial. Et en conclusion, on pourrait dire que il faut garder à l'esprit que la langue conditionne nos représentations mentales, mais que, ouf, cette langue n'est pas immuable. Elle évolue en fonction des usages, de la communication, mais aussi des valeurs et des mentalités. Et un dernier petit point pour finir cette émission, un point agenda.
Eh oui, on m'a coupé,
on nous censure.
Donc petit point agenda de dernière minute, c'est la boum du groupe de militantes super féministes qui sont les militantes du planning familial. Elles fêtent leur 6e anniversaire.
Ouh, c'est la boum.
Et c'est déjà un peu la boum dans les studios.
Et on danse, ouais.
Mais vous pourrez faire la boum la semaine prochaine, donc ça sera vendredi 9 février, ouais, c'est à 20h, au centre LGBTI qui est rue des Capucins à Lyon 1er, donc pour fêter le 6e anniversaire de l'existence des super féministes.
Et il y a très longtemps, les avait invitées, les super féministes, oui, à Lilith, si vous voulez écouter un peu qui elles sont, pourquoi elles font tout ça.
Et elles devraient revenir, ou en tout cas, des membres du planning familial vont revenir au mois de mars dans Lilith, parce qu'on va faire une émission sur l'IBG, donc elles reparleront des super féministes.
Et comme on a, vous avez d'autres informations ?
Non.
Et bien, comme on a encore le temps, on peut annoncer une manifestation contre les attaques de l'État turc à Afrin, qui est une pro. C'est donc pour continuer à dénoncer l'assaut impérialiste de l'État turc, de l'armée turque sur Afrin, qui est une province du Rojava, Kurdistan syrien, à la frontière avec le Kurdistan turc, et exprimé comme dans toute l'Europe, oui, parce qu'il y a eu des manifestations, si vous voulez chercher un petit peu, on a eu à Washington la semaine dernière, à Londres et un peu partout en Europe, ouais, pour exprimer notre solidarité à Afrin. Manifestation demain à 14h, place République, métro Cordeliers.
Venez nombreux et nombreuses.
Et comme on a encore une toute petite minute, on va pouvoir annoncer que demain, à Terre des Livres, à 15h, il y a la présentation de la brochure du collectif CRAP, le collectif de réflexion, d'analyse et d'action postcoloniale.
Bonne soirée, tchuss.
Ciao.
Merci de nous avoir écoutés. Salut, salut.
Gueule chaleuse.